grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Mets ton bonnet, ne marche pas pieds nus sur le carrelage, tu vas attraper froid. Combien de fois n'a-t-on pas entendu ces injonctions parentales ? Vous verrez ce matin qu'on n'attrape pas un rhume ou une grippe en s'exposant au froid, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de virus dans l'air. Le froid qui a tout de même des effets, on le verra, sur les muqueuses de la bouche et du nez. Mais d'où viennent ces fausses croyances sur le froid qui rendrait malade ? Pourquoi attrape-t-on un rhume ou une grippe plutôt en hiver qu'en été ? Comment se propagent les virus du rhume ou de la grippe ? Quels sont les symptômes communs et les différences ? Quels sont les traitements vraiment efficaces contre le rhume et la grippe ? Que pensez-vous des médicaments anti-rhume ? Nous attendons toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Avec nous ce matin, le philosophe de la médecine Maëlle Lemoine et la médecin généraliste Julie Gilles de la Londe. Vous pouvez nous appeler donc au 01 45 24 7000. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef à l'hebdomadaire Le 1. Vous revenez d'une contrée très froide.
Oui, oui, oui. J'étais aux États-Unis dans le Midwest où il faisait moins 35.
Et vous êtes revenu
sans être enrhumé.
En bonne santé.
Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure.
À la une du 1, tiens, cette semaine.
À la une du 1, le grand débat utile ou futile.
À tout à l'heure, Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebi.
Bonjour à nos invités, bonjour Maëlle Lemoine.
Bonjour Ali.
Vous êtes philosophe de la médecine, professeur à l'université de Bordeaux et vous publiez une réjouissante et très intéressante philosophie du rhume. C'est publié chez Hermann. Bonjour docteur Julie Gilles de la Londe.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Gennevilliers en région parisienne et vous êtes chef de clinique universitaire à l'université Paris Diderot. Maëlle Lemoine, comment ça vous est venu, tiens, l'idée d'écrire une philosophie du rhume avec une question centrale, peut-on attraper froid ?
Ça m'est venu alors que je discutais avec un ami médecin et donc ses enfants étaient en train de jouer dans le jardin et puis cet ami leur dit les rappelle en leur disant couvrez-vous, vous allez attraper froid. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit mais le froid c'est un virus, tu es médecin, a priori pour toi le froid c'est un virus, et il m'a construit toute une explication assez alambiquée pour justifier le fait qu'il fallait couvrir ses enfants. Voilà, et c'est là que j'ai commencé à m'interroger, que j'ai été regardé dans la littérature pour voir quelle preuve on a de ces croyances.
Docteur Gilles Delalonde, dans vos études de médecine, vous n'avez jamais appris que prendre froid pouvait provoquer un rhume ou une grippe.
Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que les études de médecine sont pas vraiment centrées sur les maladies virales fortement prévalentes qu'on rencontre en médecine générale.
Mais ça veut dire quoi, attraper froid ?
Attraper froid, ben, dans le langage courant, ça veut dire avoir pris froid dehors, il fait froid, j'ai le nez qui coule, j'ai un petit peu mal à la gorge, je suis tombée malade.
Mais on peut tomber malade à cause du froid, on peut faire une hypothermie, ça c'est possible.
Ah oui, bien sûr. Après, il y a tout un champ de maladies qui sont liées au froid et au fait que le corps se refroidit à des températures qu'il n'est pas capable de supporter, évidemment.
Quelles sont les maladies liées au froid, tiens, d'ailleurs ? Le rhume et la grippe, on le verra, non. Mais quelles sont les maladies liées au froid ?
Bah, je dirais l'hypothermie, c'est essentiellement ça.
C'est essentiellement l'hypothermie, je pense.
Ça se traduit comment, l'hypothermie, d'ailleurs ?
L'hypothermie, ça se traduit par une température qui baisse largement en dessous du seuil que le corps est censé supporter. Ça arrive tout bêtement en étant dans des températures extrêmement basses et en étant un peu couvert, en n'ayant pas de quoi se couvrir. Typiquement, les gens qui dorment dehors, qui passent les nuits dehors pendant les périodes très très froides de l'hiver.
Alors Maëlle Lemoine, il ne faut pas incriminer le froid en cas de rhume ou de grippe.
Mais, non, laissons-le tranquille, le froid.
Mais c'est le virus qu'il faut embêter.
Voilà, ce qui est tout à fait étonnant, j'ai trouvé en m'intéressant au sujet, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que en fait, c'est une croyance qui est très très ancienne, et on a quand même depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, on a l'explication de toutes ces infections virales, c'est donc un virus, et ça n'a pas fait disparaître ces croyances anciennes. Et c'est ça que je trouve fascinant. Pourquoi elles ne disparaissent pas ?
On y reviendra tout à l'heure, mais c'est quoi exactement un virus ?
Alors un virus, c'est un tout petit, alors on peut pas vraiment, parfois on dit organisme, parfois pas, on sait pas bien si c'est vivant ou pas, les gens sont pas tout à fait d'accord pour dire si un virus est vivant ou pas. C'est donc un être microscopique, si vous voulez, et qui va infecter vos cellules et se multiplier dans les cellules du corps.
Docteur Gilles de Lalonde, c'est quoi un rhume exactement d'un point de vue médical ?
Un rhume, c'est une affection du cou qui est liée à un des nombreux virus qui existent et qui va essentiellement donner le nez qui coule ou le nez bouché. Avec souvent, en fait, il y a une association rhino-pharyngite, c'est-à-dire avec la gorge qui fait mal, qui brûle, qui gratte.
Alors, il existe des centaines d'espèces de virus. La plus fréquente, c'est le rhinovirus, c'est ça ?
Oui, c'est exact.
C'est quoi exactement le rhinovirus ?
C'est un des nombreux virus qui existent. Il y en a environ 200 qui sont incriminés dans le rhume. Mmh. Et comme disait notre collègue, c'est un petit morceau de matériel génétique en fait, qui pénètre dans les cellules et qui se réplique en fait à l'intérieur des cellules.
Ben, le moine, c'est le plus fréquent, le rhinovirus, en tout cas
sous nos contrées. Absolument, ouais. Sous nos contrées. Après, quand on regarde dans d'autres pays ou d'autres régions du monde, ça peut être des virus différents. Mais chez nous, c'est à peu près 70-75% des infections qu'on appelle rhume. Mais c'est aussi responsable d'autres maladies.
Lesquelles ?
Alors, par exemple, certaines gastro peuvent être provoquées également par des rhinovirus. Et puis, il y a une petite confusion sur le rhume et la grippe aussi.
On y reviendra tout à l'heure, justement. On contracte en moyenne 4 à 6 rhumes par an, à peu près ?
Oui, évidemment, ce sont des moyennes. Hein. Mmh. J'ai fait un rhume, moi, il y a une semaine, ça faisait 2 ans que j'en avais pas eu, donc je suis pas du tout dans les statistiques. Et puis il y a des gens qui ont bien sûr des rhumes beaucoup, beaucoup plus souvent. Mais imaginez le nombre de rhumes que ça fait, parce que là, c'est des moyennes sur la totalité de la planète. Hein. On parle de l'ensemble de l'humanité.
Mmh. Quelles sont les populations les plus exposées, docteur Julie Gilles de Lalonde ?
Alors clairement, les enfants en collectivité, tous les parents qui commencent à mettre leur enfant à la crèche subissent fortement l'arrivée en crèche et l'arrivée en collectivité de leur enfant. L'enfant attrape tous les différents virus qui vont passer et ça se traduit toujours par des rhumes. Après, oui, on est tous des victimes potentielles, mais plus précisément les personnes vulnérables également qui sont dans les âges extrêmes ou qui ont des facteurs de risque.
Alors, il y a une question qu'on se posait au bureau tout à l'heure. Est-ce que passer du chaud au froid peut rendre malade ? Est-ce que les changements brusques de température peuvent nous affaiblir ? Maëlle Lemoine.
Alors, nous affaiblir, je suis pas sûr, mais nous rendre malade, oui. C'est-à-dire qu'un choc thermique, en fait, peut provoquer des phénomènes désagréables. Alors, on connaît l'insolation, tout le monde connaît l'insolation. Après, il y a un certain nombre de syndromes. Je crois qu'on l'appelle le syndrome du légionnaire, qui est aussi un choc thermique extrêmement important et qui peut être même mortel.
Mais quand on passe, par exemple, des atmosphères très chaudes, confinées dans nos appartements, dans nos maisons, dans nos bureaux, et qu'on passe à des températures très froide, ça peut provoquer des maladies, entre guillemets, pas forcément des rhumes ou des grippes, mais...
Un torticolis.
Ah !
Ça peut arriver, je pense.
Confirmé, docteur ?
Contracture musculaire.
C'est difficile, en fait. Il n'y a pas de preuves au niveau scientifique de ce genre de choses. Après, il y a les expériences individuelles, évidemment, des gens, mais...
Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Lacour et Alexia Rivière m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bove et c'est réalisé par Claire Destacan.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you find. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple.
so peaceful until you ring the bell, 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 shout. This guy's coaching, I got hit. There's no mistake. This is it! Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.
Une chanteuse venue du froid, Björk.
Grand bien vous fasse.
Vous allez vous enrhumer avec votre boule d'escalier.
Ali Rebbi.
Vous voulez pas ma casquette ? Foutez-moi la paix !
Sur France Inter.
10h19, attrape-t-on vraiment un rhume ou une grippe en prenant froid? C'est notre thème ce matin. Avec nous, Maëlle Lemoine, philosophe de la médecine, et le docteur Julie Gilles de la Londe. Question-réaction au 01 45 24 7000.
Barnet, mais en fait, qu'est-ce que tu fabriques? Rentre tout de suite, il fait un froid de canard dehors, t'es complètement dingue.
Oh, cela claque.
Non, il faut que tu rentres et que tu te mettes au lit maintenant.
Une question sur notre page Facebook. En rentrant d'un week-end en famille, je suis la seule à avoir eu un rhume carabiné. Peut-on être sujet à des virus plus que d'autres, docteur de la Londe?
Alors, il y a certaines personnes qui attrapent plus souvent des rhumes que d'autres. Il y a de multiples facteurs qui peuvent expliquer ça.
Lesquels, par exemple?
Génétiques, environnementaux, de comportement aussi. On disait tout à l'heure, est-ce qu'on se touche plus le visage, les yeux, la bouche, le nez? On a tous des comportements un peu différents avec notre propre corps. Et puis, il y a le temps d'incubation qui peut aussi qui peut jouer. Hein. Peut-être que cette dame a attrapé ce rhume avant de partir en week-end et qu'elle l'a révélé à la rentrée du week-end.
Maëlle Lemoine, la croyance selon laquelle le froid rend malade est encore très tenace. Hier, j'expliquais le thème du jour à des collègues qui me regardaient de façon un peu dubitative. Et vous, dans votre ouvrage, votre sœur pense dur comme fer qu'il existe une relation de cause à effet entre le froid et l'écoulement nasal lié à un rhume.
Alors ça s'explique, je pense que l'explication, elle est vraiment toute simple. C'est-à-dire que quand vous avez froid, quand vous êtes exposé au froid, vous développez des symptômes qui ressemblent à s'y méprendre à ceux du rhume. Et quand je dis à s'y méprendre, c'est que si vous passez dans les mains du médecin, le médecin ne sera probablement pas en mesure de vous dire si vous avez un rhume ou si vous avez simplement le nez qui coule. Parce que ce sont des, voilà, le nez qui coule, le fait d'avoir éventuellement la gorge un peu irritée ou ce genre de choses, sont des phénomènes qui peuvent survenir avec le froid. Avec le froid, la différence, c'est que c'est transitoire. Ça ne dure pas longtemps. Alors que le rhume durera un petit peu plus longtemps et n'est pas dû aux mêmes causes.
Et puis les symptômes du rhume ne sont pas spécifiques au rhume.
Ah non, absolument. Le rhume, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à diagnostiquer pour le médecin généraliste. D'abord parce que le mot lui-même n'est pas en fait en soi un diagnostic technique ou médical. C'est plus un terme de la langue de tous les jours. Le médecin, s'il vous diagnostique précisément, il n'en a généralement pas besoin, mais s'il le fait, il vous dira que vous avez plutôt une rhinopharyngite, une rhinite ou autre chose qui va provoquer ou une grippe. Ils le font rarement d'ailleurs. Tout simplement parce que c'est extrêmement flou. Ce sont tout un tas de symptômes qui sont très très peu spécifiques. C'est-à-dire en langage médical, qu'ils peuvent être attachés ou dus à de nombreuses maladies différentes.
Vous confirmez, docteur Gilles de la Londe?
Oui, c'est vrai que souvent les gens viennent en demandant est-ce que c'est la grippe, docteur? Est-ce que c'est une gastro-entérite, par exemple? Est-ce que c'est un rhume? On va raisonner avec un système de symptômes, de signes cliniques. On va voir s'il y a que le nez et la gorge, les sinus qui font mal, est-ce qu'il y a de la toux, comment est la toux, comment sont les sécrétions? Et puis c'est le tableau global, est-ce qu'il y a des signes généraux, des courbatures, une grande fatigue? C'est tout ce tableau général. Et puis également la temporalité des événements qui va nous faire poser un diagnostic le plus probable, disons.
Voilà, c'est ça. Et puis, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le médecin, c'est un des domaines dans lesquels il n'a pas un grand besoin de précision, parce que généralement, c'est bénin. Donc, il a surtout un rôle de surveillance, et il va vérifier qu'il ne va pas y avoir une aggravation, ce qui est possible dans tous ces cas de figure. Il y a tout de même des morts avec le rhume. Hein. Il y en a une petite dizaine dans le monde par an.
Alors, c'est vrai que les symptômes d'un rhume et d'une allergie au pollen ou aux acariens se ressemblent beaucoup.
Oui, c'est tout à fait exact. La rhinite allergique, par exemple, au printemps, qui est extrêmement fréquente, on a l'impression de plus en plus fréquente avec les années, donne un nez qui coule, un nez qui gratte, un nez congestif, des gens qui peuvent tousser.
C'est ce qu'on appelle le rhume des foins.
Oui, tout à fait.
Alors, Maëlle Lemoine, d'où vient cette idée selon laquelle le froid provoque un rhume ? Alors, rappelons, par exemple, qu'en anglais, rhume se dit cold, froid en français, en allemand, Erkaltung, qui veut dire refroidissement, en italien, raffreddore, veut dire refroidissement, et en hindi, le terme sardi veut dire à la fois froid et rhume. Donc c'est très ancré dans toutes les cultures du monde. Hein.
Absolument. Alors je pense que c'est pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire à cause de la ressemblance des symptômes, etc. Mais historiquement, on en trouve la trace. Et donc on sait que, par exemple, dans la médecine grecque, la médecine hippocratique, puisque là on a beaucoup de textes, c'est théorisé. C'est-à-dire qu'on a une explication dans ce qu'on appelle la théorie des humeurs. Les humeurs n'étant pas ce qu'on appelle aujourd'hui être de bonne ou de mauvaise humeur, mais étant en fait les composants du sang dans la théorie hippocratique. Et un de ces composants, c'est justement ce qu'on appelle en latin, ce qu'on appelait plus tard en latin la pituite, qui signifie exactement l'écoulement nasal. Donc c'était censé être un des composants du sang qui, quand il était en trop grande quantité, sortait du corps. C'est-à-dire le corps excrétait ce qui était mal mélangé au reste du sang. Voilà.
Et au cours de l'histoire de la médecine, il y a eu beaucoup de croyances qui nous paraissent un peu saugrenues hein, sur les causes du rhume.
Alors globalement oui, on va dire pour c'est rarement irrationnel ou tout à fait impossible à croire, mais ça ressemble souvent à des justifications de pratiques ou d'observations qu'on a cru faire et qui étaient souvent pas extrêmement solides, on va dire.
Alors il faut attendre le début du XXe siècle pour comprendre que le responsable du rhume n'est pas le froid, grâce à un chercheur allemand en infectiologie, Walter Kruse, juste avant la Première Guerre mondiale.
Absolument, c'est lui qui va découvrir et puis utiliser une méthodologie scientifique rigoureuse, c'est-à-dire utiliser des excrétions de quelqu'un qui était
nasal.
Enrhumé, voilà, nasal, pour contaminer quelqu'un qui ne l'était pas. Voilà, donc expérience pas très ragoûtante, mais la seule manière de tout à fait probante de montrer que le rhume était dû à un virus.
Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que les connaissances sur le rhume progressent ?
Alors il y a un centre qui a été créé en Angleterre, qui a fermé ses portes maintenant il y a quelques années, mais un centre absolument incroyable, consacré à l'étude du rhume. Donc dans la campagne anglaise, un centre totalement isolé du reste du monde, dans lequel les volontaires venaient pour se faire inoculer des virus, pour voir comment ils allaient réagir, et il y a eu des tas et des tas d'expériences faites. Le but était très simple, hein, c'est qu'il y a un nombre d'arrêts de travail absolument extraordinaire à cause de ces virus, et c'était un impératif de santé publique, pas à cause de la gravité de la maladie, hein, mais à cause du nombre de journées de travail perdues, et puis tous les petits inconvénients dont on souffre tous. Donc ce centre a travaillé sur le rhume pendant plusieurs dizaines d'années, et c'est de lui qu'on tient la grande partie des connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui sur le rhume.
Bonjour Thibault.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Vannes.
Ouais,
alors vous êtes surfeur, c'est ça ?
Ouais,
vous allez surfer dans les eaux bretonnes plutôt froides à cette période de l'année, j'imagine, deux fois par semaine. Et alors, vous vous rendez compte de quoi, Thibaut ?
En fait, moi, c'était juste, je voulais intervenir parce que je sais que tout le monde ne peut pas faire ça, n'a pas accès à l'océan, etc. Les physiques sont différents en personnes âgées. Mais moi, c'est vrai que depuis que je surfe, du coup, ça fait 5 ans, et du coup, je surfe tous les mois de l'année, donc dans les eaux bretonnes, on est plutôt à 9-10 degrés. Mmh. Et que, en fait, le fait d'être habitué, d'avoir été habitué au froid, d'aller au contact de ce climat, de cette eau, en fait, moi, ça m'a rendu, je vais pas dire plus fort, mais je pense que ça m'a rendu vachement plus, plus fort par rapport à aux états grippaux, aux virus. Et que moi aussi, en parallèle, je suis ouvrier agricole en agriculture biologique, et du coup, je suis dehors tout le temps, sous la pluie, enfin voilà, et du coup, c'est vrai que je pense que j'ai développé une habitude là-dessus. Et du coup, les seules fois où moi, j'ai eu, ça a dû être deux fois dans ma vie, la dernière fois, c'était parce que du coup, on était dans un environnement qui était complètement clos, avec plein de petits enfants, les microbes et machin, et du coup, mais une température qui a permis, je pense, une expansion aux germes pathogènes et que ça s'infiltre ouais, dans les muqueuses, etc. Quoi.
Ça a coupé un moment, c'est la grippe que vous avez attrapée dans des endroits chauds et confinés, hein, c'est ça, c'est bien
ouais,
la grippe.
Ouais. Tout à fait, ouais. Et mais vraiment, parce que du coup, le diagnostic du médecin, c'était bah, c'est la grippe. Quoi. Et du coup, c'est la seule fois vraiment où ça m'est arrivé, et c'était dans une pièce de vie où il y avait quatre enfants, il y avait quatre ouvriers, les radiateurs à fond, les germes, voilà, et toute l'ambiance était propice au développement. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais insister sur le côté, eau de mer et puis froid, bah, c'est vrai que je sais que tout le monde ne peut pas faire ça, mais voilà, il y a d'autres manières, marcher 30 minutes par jour, c'est possible dehors, etc. Quoi.
Alors Thibaut, je partage avec vous votre goût pour les bains dans les eaux froides. Je trouve ça très revigorant. Et ça fait rire Julien Bisson, ça vous fait rire?
Oui, oui, je vous imagine sur un surf, c'est pour ça. Là,
non, pas sur un surf, mais j'aime bien nager dans les eaux froides. Bon, voilà. Voilà. Maëlle Lemoine, sur ce que vient de nous dire Thibaut.
Alors, je pense que, enfin, Thibaut a donné un exemple, un témoignage qui est tout à fait typique. Alors, on pourrait pas, sur la base simplement de ce qu'il a observé, tirer des conclusions générales. En revanche, là, il y a un point qui est pas tout à fait démontré ni observé, c'est qu'il y aurait un lien entre le fait de s'exposer au froid et le fait d'être plus résistant au rhume. Là non plus, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques montrant qu'il y a un effet protecteur. En revanche, il y a effectivement une très vieille théorie qui consistait à penser qu'en gros, le rhume venait du fait que la sueur, quand on la laissait pas s'exprimer ou sortir, ou qu'elle pouvait pas sortir pour une raison ou pour une autre, elle fermentait à l'intérieur du corps et c'est ça qui produisait le mucus. Donc selon cette vieille théorie, bah, il fallait s'exposer au froid pour que les pores de la peau s'assouplissent et se durcissent. C'était pas très très clair, hein. Mais on avait une sorte de théorie de ce genre en disant que c'était comme ça qu'on se protégeait le mieux. Donc il fallait du coup s'exposer à l'air.
Docteur Julie Gilles Delalonde, sur le témoignage de Thibaut.
Bah, notre auditeur en fait bénéficie de lavage de nez à l'eau de mer quasi quotidien en grand volume, donc c'est disons la principale mesure thérapeutique contre le rhume. Donc
le
en fait ah oui, le lavage du nez. Donc le lavage du nez au sérum physiologique, on le fait quand on habite en ville, quand on n'a pas la chance de pouvoir faire du surf tous les jours. Mais c'est encore mieux quand c'est il doit avoir des gros volumes d'eau de mer dans le nez en fait régulièrement.
Mais Thibaut nous donne une clé là. Hein. Merci Thibaut en tout cas d'avoir témoigné. Il nous donne une clé, c'est que il attrape des rhumes, des grippes quand il est dans un espace confiné.
Absolument.
Au chaud. Mmh. Et c'est vrai que l'hiver, on a plus tendance à se retrouver au chaud, confiné dans des espaces clos, Maëlle Lemoine.
C'est l'explication principale au fait que les rhumes et les autres virus d'ailleurs sont plus contagieux en hiver. C'est qu'on est beaucoup plus enfermé à l'intérieur. Et donc on est plus au contact les uns avec les autres. Et en ce qui concerne le rhinovirus d'ailleurs, le rhume, la cause principale est souvent, on croit souvent que c'est l'air, que c'est dans l'air que ça se trouve. Alors pour la grippe c'est vrai, pour le rhinovirus non. C'est-à-dire qu'en fait le rhinovirus ne se transmet que très peu. Ça peut arriver, mais très peu. C'est-à-dire si quelqu'un vous éternue au visage alors qu'il a un rhume, vous avez assez peu de chances d'être contaminé.
Ah bon ?
Voilà, le plus fréquent. Alors ça dépend de la taille de la, on va dire des projections, sans rentrer trop dans le détail. Mais là, ce qu'on a pu montrer, c'est que vous savez, des tas d'expériences. Hein. On fait des expériences, par exemple, avec des joueurs de poker. Donc un est enrhumé, les autres ne le sont pas, et donc ils communiquent en touchant les cartes. Et on regarde, on observe, on les filme pour voir si par exemple ils se touchent le visage, etc. Et en fait, le moyen principal de communication du rhume, d'après ces études et d'autres études, c'est les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, on a le virus sur les doigts et on se touche le visage. Ah. Voilà. Alors, certains se mettent les doigts dans le nez. Personne autour de ce plateau, bien sûr, ne le fait, mais certaines personnes font ça. D'autres, et c'est beaucoup plus fréquent, se touchent les yeux. Et c'est par là que ça passe, le plus souvent.
Ou le nez.
Et principalement les enfants, au final, qui
Absolument.
Sont les plus grandes victimes des conjonctivites virales.
Bonjour, Andrea.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Perpignan, bienvenue dans l'émission.
Oui, c'est ça.
Alors,
bonjour.
Votre question ou votre témoignage ?
Alors, moi j'ai une remarque, une question en fait. Je me suis aperçue, alors c'était un hiver où on nous demandait de bien nous laver les mains, je me suis aperçue au supermarché qu'en fait tout le monde tripote les caddies.
Oui.
Je me suis aperçue aussi que les distributeurs d'argent sont souvent d'une saleté assez incroyable, que à la poste par exemple on nous demande de faire de plus en plus de choses avec des écrans tactiles, que les hypermarchés sans caisse vous font manipuler des douchettes et que, qui ont été manipulées par 15 personnes auparavant, et on ne prend aucune précaution d'hygiène. Et ça, ça m'interpelle parce que je pense quand même que là, il y a un facteur de... On véhicule des microbes, en veux-tu, en voilà, et je pense que personne n'a l'air de s'inquiéter de ce problème.
Vous avez totalement raison, André, on vient de le dire, la contamination se fait, en tout cas pour le rhume, par les mains, par les objets souillés, par le rhinovirus. Maël Lemoine, c'est vrai que c'est vrai, on touche toute la journée des objets touchés par d'autres personnes qui n'ont pas forcément une hygiène parfaite des mains.
Absolument. Alors, il faut tempérer. C'est une remarque tout à fait judicieuse, hein. Mais il faut tempérer. D'abord, il faut pas trop s'inquiéter de la chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas, d'abord, on n'est pas malade parce qu'on touche une surface qui a été contaminée. On est malade parce que, l'ayant touché, on l'a fait passer ensuite par une voie, on vient de le dire, par exemple, les yeux ou le nez. Donc, si vous ne vous touchez pas, ou la bouche. Si vous ne vous touchez pas les yeux, le nez, la bouche, par exemple, après avoir touché une surface contaminée par un virus, vous avez extrêmement peu de chances, voire des chances nulles d'être contaminé ensuite, enfin je veux dire d'avoir la maladie.
Oui, c'est exact. Et après, évidemment, la mesure de santé publique collective qui va avec ça, c'est de se laver les mains, voilà, notamment en période épidémique, le plus possible, à l'eau et au savon, pour que le nombre de mains sales aussi diminue de façon générale.
Et puis, il y a un deuxième point qui est important aussi, hein, c'est que la quasi-totalité des virus qu'il y a dans notre environnement, il y en a très nombreux, et des bactéries, ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire ne provoquent pas de maladies. C'est-à-dire, c'est très rare. Donc, comme vous venez de le dire, en fait, c'est important en période épidémique pour éviter le virus, mais il ne faudrait pas le généraliser en se disant il faut absolument que je me lave les mains, je ne peux pas être au contact des autres, c'est dangereux, etc.
Andrea, j'imagine que vous vous empressez de vous laver les mains une fois rentré chez vous. Vous avez toujours des lingettes sur vous?
Alors des lingettes non, parce que j'ai un petit côté écolo qui fait que j'évite d'utiliser ces trucs-là. Par contre, j'ai dans ma voiture du gel et c'est vrai que en sortant du supermarché, une fois que j'ai rangé mon caddie, je me passe les mains avec ce gel. Je me dis que les stations essence proposent souvent des gants, c'est très bien. Ça devrait être le cas dans plein d'endroits. Bon, j'en fais pas, je suis pas traumatisée, hein.
D'accord, oui, oui.
À faire attention à tout et à utiliser mon gel toutes les 30 secondes, mais je trouve qu'il y a quand même des endroits où on pourrait peut-être tous ces écrans tactiles là qui doivent être nettoyés peut-être une fois par jour ou une fois par semaine. Je sais pas, il y a peut-être des choses à faire.
Merci beaucoup, Andrea, pour votre question et votre témoignage. Alors, est-ce que j'ai raison de ne pas serrer la main d'un collègue quand il y a une épidémie de rhume au travail, docteur Gilles Delalonde?
Ça dépend si on parle d'un point de vue collectif ou individuel. Moi, je trouve cette question très intéressante. En médecine générale, par exemple, toutes les 15 minutes, on est amené à croiser un nouveau patient. Et faut-il lui serrer la main ou pas? Moi, je fais le choix de le faire parce que je trouve qu'au niveau relationnel et de l'accueil, c'est important. Évidemment, je m'empresse de me laver la main avant, après, avec de l'eau et du savon pour que ces gestes-là restent quand même hygiéniques.
Alors, en cas de rhume, est-ce qu'on peut embrasser sa moitié enrhumée? Maëlle Lemoine, que disent les études que vous avez regardées avec beaucoup d'attention?
Et oui, et c'est très sérieux puisque des scientifiques ont fait ces études pour voir si on se contaminait plus en serrant la main ou en s'embrassant, et on se contamine beaucoup plus en se serrant la main qu'en s'embrassant. Donc en fait, vous pouvez expérimenter, ensuite soyez prudent, ça dépend, je le ferai pas peut-être pour la grippe, mais pour le rhume, en tout cas, vous pouvez à peu près être confiant, vous n'attraperez pas le rhume en embrassant. Même avec ce que les Anglais appellent le French kiss, il n'y a pas de contamination.
Vous êtes rassuré, Julien Bisson?
Oui, mais je pense qu'il faut donc embrasser ses collègues plutôt que leur serrer la main.
Voilà. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on évite de faire avec ses enfants en cas de rhume, docteur? Le bisou esquimau, notamment, non? C'est ce que j'ai lu.
Oui, on évite globalement de manipuler les sécrétions. Alors c'est facile à dire, hein, quand on est un parent et qu'on doit nettoyer le nez de son enfant, lui laver les yeux, le moucher, etc. Mais donc évidemment, bien se laver les mains après avec de l'eau et du savon. On peut aussi parler des mesures de l'environnement. Il faut éviter de fumer, par exemple, dans l'environnement de l'enfant.
Pourquoi?
Même les vêtements, en fait, des parents qui fument peuvent contenir des molécules de tabac qui persistent et qui sont très irritatives pour les muqueuses.
Alors c'est vrai qu'une muqueuse irritée... ça permet au virus de mieux s'installer. C'est en ce sens peut-être que le froid peut rendre malade, c'est-à-dire qu'il assèche les muqueuses du nez, et que le virus peut pénétrer plus facilement. Maëlle Lemoine.
Alors c'est un mécanisme possible. Donc c'est possible, mais c'est pas démontré que c'est donc c'est plausible. Et ça c'est déjà une étape importante. Mais on n'a pas pu démontrer que c'était effectivement le cas.
le froid a tendance plutôt à humidifier en fait les muqueuses, parce que quand l'air est très froid et qu'il doit pénétrer par les voies respiratoires pour aller aux bronches, en fait le corps a tendance à humidifier ses muqueuses pour réchauffer l'air le temps qu'il arrive à nos bronches. C'est pour ça qu'on a la goutte au nez en fait quand l'air est froid.
Grande question, pourquoi attrape-t-on surtout des rhumes en hiver plutôt qu'en été? Maëlle Lemoine.
Alors, on le disait, à cause du confinement, c'est la première cause. Mais donc, il fait froid dehors, donc on s'entasse dedans, on va dire. C'est la première cause. Mais la cause majeure quand on fait des études épidémiologiques, c'est-à-dire des études sur la santé des populations dans leur ensemble, on s'aperçoit que les pics de rhume, ils surviennent systématiquement 3 semaines après la rentrée des classes. Donc c'est le point majeur, c'est quand les enfants qui étaient séparés, qui étaient pas ensemble, qui étaient dans leur famille, etc., se retrouvent et donc se transmettent les uns les autres des virus.
Vous le constatez dans votre cabinet ?
Ah oui, ça c'est flagrant. L'entrée en crèche, le début d'année, l'entrée à l'école, c'est vraiment le début du pic de toutes les infections virales.
J'imagine que vos patients vous demandent quelles sont les différentes façons de traiter un rhume. D'abord, comment éviter de le propager ? On rappelle les règles très simples qu'on a un peu évoquées. On se lave les mains régulièrement.
On se lave les mains régulièrement, on se mouche.
Avec du sérum physiologique.
On se lave le nez avec de l'eau de mer ou on surfe tous les jours pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. On évite de fumer, d'irriter les muqueuses, etc.
Et on
éternue aussi dans sa manche. Hein, on voit beaucoup
dans
de gens qui toussent ou qui éternuent dans leurs mains. Et comme on disait, la main, c'est le premier vecteur de tout ça. Donc, évitez.
Alors, que pensez-vous des médicaments type Actifed Rhume, Dolirhume, Nurofen Rhume? Selon la revue 60 millions de consommateurs, ces médicaments anti-rhume contiennent un principe actif dangereux, la pseudoéphédrine, un décongestionnant nasal qui peut accroître le risque, parfois le risque d'accident vasculaire cérébral. Et puis on peut également retrouver dans ces médicaments anti-rhume des antihistaminiques associés à du paracétamol ou de l'ibuprofène. C'est un sacré cocktail tout de même pour combattre le rhume. Quelle est votre position, docteur? Bruno Toussaint de la revue Prescrire dit très clairement, les médicaments anti-rhume ne changent rien à l'évolution du rhume. C'est essentiellement une affaire de commerce.
Alors je vois que vous êtes bien renseigné, vous lisez des revues indépendantes de l'industrie pharmaceutique, Prescrire. Il y a également Exercer, la revue francophone de médecine générale. Alors en effet, c'est un vaste débat, c'est-à-dire que dans les pharmacies, il y a des tas de médicaments qui se veulent aider pour le rhume. Les patients souvent viennent quand ils ont déjà vidé un peu le porte-monnaie chez le pharmacien, donc c'est un vrai sujet. Alors il y a des grosses études, notamment menées par la revue Cochrane, qui est un des plus gros instituts qui fait des revues systématiques et qui sont indépendantes, qui a cherché à justement étudier l'effet de la vitamine C, je les ai un peu listées, l'acétylcystéine, carbocystéine, les anti-inflammatoires, les antihistaminiques, le miel, les corticoïdes, l'ail, les antibiotiques. En gros, tout a été étudié. Et finalement, la conclusion est
très claire.
Est très claire. En fait, il n'y a rien qui a montré plus d'efficacité que d'attendre que ça passe. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui réduit la durée ou la gravité des symptômes.
Alors, il y a un point néanmoins dans les traitements dont vous parlez, qui ont été pointé par la revue Prescrire, c'est que ce sont des médicaments qui sont symptomatiques. Et là, au niveau des symptômes, ils sont efficaces. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement vous empêcher d'avoir le nez qui coule. Ça ne veut pas dire que votre rhume est passé. C'est-à-dire que vous arrêtez de prendre le traitement, le nez reprend, l'infection est toujours là. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est pour ça que ça se vend aussi. Donc c'est une affaire de commerce aussi, parce que pour beaucoup de gens, c'est tout simplement commode de ne pas avoir le nez qui coule. Le mérite de cette étude et des études de la collaboration Cochrane, par exemple, c'est de montrer les effets secondaires éventuellement sévères qu'il peut y avoir chez certains individus. Donc c'est rare, mais étant donné que les effets du rhume sont eux-mêmes relativement mineurs, même s'ils sont inconfortables, il vaut peut-être mieux les endurer que de prendre le risque d'avoir un accident sévère.
J'ai l'impression qu'on soigne une maladie bénigne avec un bazooka.
Ce sont pas forcément des molécules extrêmement... Là, je me tourne vers vous, docteur, mais c'est pas des molécules qui sont toutes forcément très, très... Elles peuvent être dangereuses.
La pseudoéphédrine...
C'est vrai que la pseudoéphédrine, c'est une vraie question. Les gens, ils viennent... Alors, c'est intéressant, le point de vue. Moi, je trouve la différence des points de vue est très intéressante. C'est vrai que toutes ces infections virales sont souvent des choses très bénignes, sans importance pour le médecin. Donc, qui donne en fait, souvent au médecin, la tendance à dire « c'est rien » ou « il n'y a rien à faire, ça va passer ». Et en fait, dans le référentiel du patient, bah, c'est dur à entendre parce qu'en fait, d'un point de vue individuel, c'est extrêmement gênant. On a tous eu un gros rhume, on a tous eu une bronchite qui traîne, on a tous toussé des nuits sans pouvoir dormir. Et en fait, ça, c'est extrêmement pénible. Donc, on se retrouve face à des gens qui sont dans des symptômes très gênants. Avec nous, bah, une artillerie thérapeutique qui est vraiment très, très limitée, à devoir dire qu'il va falloir peut-être attendre et que la patience est le meilleur traitement.
Et les remèdes de grand-mère, l'infusion de thym, de gingembre, de miel.
C'est très bon, j'adore tout ça, mais ça sert à rien contre le rhume.
Bon. En tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien, pas forcément sur le rhume, mais voilà.
C'est ça, ça fait du bien. Ouais. Et puis souvent, les parents ont besoin aussi de prendre soin des enfants, de s'occuper, de faire quelque chose. Hein. C'est dur pour une maman quand on lui dit « il n'y a rien à faire, madame ». Elle a envie de s'occuper de son enfant. Donc tant mieux si elle lui fait des petites infusions et des câlins.
Julien Bison.
Est-ce que ça peut faire un effet placebo quelconque, le fait même de prendre, que ce soit ces infusions ou un médicament prescrit, qu'on achète en pharmacie ?
Sur le rhume, ça me paraît douteux. Moi, j'ai rien vu là-dessus, en regardant dans la littérature, mais je pense que sur le rhume, ça me paraît quand même relativement douteux. Hein. C'est-à-dire que des effets placebo sur un certain nombre d'autres infections, oui, sur le rhume.
Après, l'effet placebo, on le retrouve quasiment dans toutes les études, hein, il est très puissant. Oui. Après, boire, évidemment, s'hydrater, quand la gorge est sèche, quand les sécrétions nasales en fait, sont derrière la gorge et font tousser, s'hydrater, c'est quand même aussi une des premières choses à faire.
Et la vitamine C, ça aide à lutter contre les infections du type rhume?
Malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas prouvé d'efficacité.
En fait, c'est une histoire intéressante. Ça vient d'un prix Nobel, Linus Pauling, qui a promu cette idée qu'il était absolument convaincu de la chose. Et il a réussi. Il avait un tel pouvoir médiatique, parce que, en tant que prix Nobel, qu'on l'interrogeait sur tout et n'importe quoi. Et il n'arrêtait pas de marteler que la vitamine C pouvait guérir à peu près de tout, y compris du rhume. Donc c'est comme ça que cette histoire s'est implantée en fait, dans les esprits.
Allez, nous verrons dans quelques instants la différence entre un rhume et une grippe. En attendant, c'est l'heure de Julien Bison, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, à la une du 1, vous vous demandez si le débat, le grand débat national est bien utile ou pas.
Oui, parce que pour une fois en février, le débat qui anime la France, c'est pas est-ce que je monte le chauffage ou pas. Non, mon cher Ali, depuis un mois, la France a la fièvre avec ce grand débat censé dégripper la machine. Un mois que ça dure donc, et un mois encore que la température risque de monter, puisque les Français sont peut-être des Gaulois réfractaires au changement, mais pas franchement à la prise de bec. C'est notre journaliste Manon Pollic qui nous le raconte dans un long reportage où elle a suivi quelques-uns de ces débats populaires dans ces grandes salles des fêtes, où on a peut-être tôt fait de s'enrhumer d'ailleurs. Elle y a rencontré des agriculteurs, des retraités, des employés, des étudiants, qui viennent là parfois sans trop y croire, mais qui ont quand même l'impression d'y avoir un peu plus de poids que sur Internet et ces dizaines de milliers de contributions censées être lues et traitées par une intelligence artificielle. Elle a surtout rencontré des Français bien plus passionnés par la politique que ce que veulent en dire les médias, désireux de comprendre les ressorts de notre démocratie et en attente de véritables changements à l'issue de ce grand déballage national.
Est-ce qu'ils ont des raisons d'y croire que ce grand débat va être utile?
Cette question, c'est une question qu'on a posée à Éric Vuillard, vous savez, qui est prix Goncourt en 2017. Et celui-ci aurait plutôt tendance à refroidir l'enthousiasme avec un texte cinglant sur ce qu'il appelle un simulacre de démocratie. Pourquoi? Parce que selon lui, la démocratie ne peut naître que d'un processus collectif qui ne soit pas dicté par le haut. Parce que la démocratie, telle que nous la connaissons tous, reste pour lui profondément inégalitaire. Je le cite, « Pas une seule assemblée sur Terre, écrit-il, ne représente peu ou prou ce qu'il est convenu d'appeler le corps électoral. Les pourcentages peuvent bien subir quelques variations, les proportions demeurent les mêmes. À l'Assemblée nationale, on trouve en tout et pour tout 4 ouvriers, mais 16 administrateurs de société. Un seul artisan, un garagiste et 23 cadres supérieurs pour le seul secteur privé. Une seule secrétaire pour 29 avocats. Or, on compte 65 000 avocats en France et 800 000 secrétaires, dont 98% sont des femmes. On trouverait, finit-il, les mêmes écarts en prenant l'âge pour critère ou le niveau de diplôme. Est-ce que ce grand débat peut donc être un pas vers une réforme de cette démocratie représentative imparfaite? Est-ce qu'il marque un retour à la prise de parole publique, directe, sur laquelle était fondée la démocratie antique, comme le rappelle la philosophe Myriam Revaud-Allonne dans nos colonnes? On saura peut-être dans un mois si la fièvre jaune est retombée ou s'il faudra administrer un traitement de cheval à notre vieux système bien malade.
Le grand débat utile ou futile, c'est la question à la une cette semaine de l'hebdomadaire Le 1, à découvrir en kiosque et en librairie. Julien Bison, un mot sur la nouvelle revue que vous lancez avec Eric Fotorino. Vous avez déjà lancé il y a quelque temps America. Et là, il y a une nouvelle revue qui arrive.
Une nouvelle revue qui arrive, qui va s'appeler Zadig, qui se paraîtra le 21 mars. Le grand récit de la France par les écrivains, les historiens, les sociologues, les philosophes de notre temps. On a lancé une campagne de financement participatif hier, donc je vous encourage à venir nous aider à lancer cette revue.
Merci beaucoup Julien Bisson. Dans quelques instants, on se demande si on peut attraper la grippe en prenant froid. Nous sommes en pleine épidémie. 01 45 24 7000. Hubert Lenoir interprété, recommencer.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h49, attrape-t-on vraiment un rhume ou une grippe en prenant froid? C'est notre thème ce matin. Question-réaction au 01 45 24 7000. Avec nous le philosophe de la médecine Maël Lemoine et le docteur Julie Gilles de Lalonde. Question de Julien Bisson.
Oui, je réfléchissais à cette idée de rhume transitoire. Et ça nous arrive à tous d'avoir des rhumes qui durent pas forcément une semaine, mais qui durent un jour, deux jours. Est-ce que ces rhumes-là, ce qu'on appelle nous rhumes, mais qui n'est peut-être pas forcément un terme médical, est-ce que c'est lié au froid, ceux-là en particulier?
Alors normalement, provoqué par le rhume, vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement transitoire, c'est-à-dire quelque chose qui va durer quelques heures, peut-être. Donc ça n'a rien d'une maladie, c'est vraiment une réaction du corps au fait que, par exemple, vos muqueuses se sont asséchées, donc votre nez va couler, ou votre gorge n'a pas pu s'humidifier parce que vous avez reçu de l'air très sec dans la figure, par exemple. Ça peut provoquer ce genre de phénomène, mais c'est en rien une maladie, c'est juste une réaction de votre corps, de même que, par exemple, si vous chantez trop fort ou si vous criez, vous aurez la gorge irritée, vous n'êtes pas malade.
Sabine nous demande sur notre page Facebook, savez-vous pourquoi on attrape si vite des rhumes ou des angines à cause des climatisations? Ça revient beaucoup, cette histoire de climatisation, docteur Gilles de Lalonde.
Bah ça, y a pas de lien direct entre la climatisation et l'infection virale. Après c'est ce qu'on disait sur l'air très froid qui peut fragiliser les muqueuses pendant quelques heures peut-être et donner des symptômes vraiment transitoires.
J'ai un bisou, une autre question concernant les enfants.
Oui, alors là, c'est une question de père de famille. Si je laisse mon fils pas très couvert, jouer pendant tout l'après-midi dehors. On a tous, nous, en tant que parents, l'idée qu'il faut qu'il lui dise, il faut se couvrir, il faut mettre sa doudoune avant de sortir. Est-ce que je prends un risque qu'il tombe malade plus facilement?
Non, le seul risque, a priori, là où il faut faire attention, notamment avec les petits, c'est l'hypothermie, absolument. C'est le seul risque. Après, effectivement, ils peuvent avoir des contractures musculaires en dormant plutôt, en étant immobile dans un lit sans être bien couvert, mais c'est tout. C'est à peu près tout.
Alors, nous sommes en pleine épidémie de grippe en France. Quels sont les symptômes de la grippe et quelle est la différence avec un rhume
Alors, les symptômes de la grippe sont principalement une forte fièvre, un début de symptômes très brutal. Ça, c'est une des marques de la grippe.
Ça, c'est typique.
C'est typique de la grippe. C'est très fort, ça tombe d'un coup.
Ça vous abat d'un coup.
C'est ça, avec une immense fatigue, des courbatures dans tout le corps, mal au dos. Et puis après, les symptômes qui peuvent y être associés, c'est le rhume, l'angine, la toux. Souvent, il y a la toux justement sans le rhume, ce qui est assez caractéristique de la grippe. Et une fièvre qui persiste à 39, 40, plusieurs jours d'affilée.
Comment ça se propage le virus de la grippe? Ça se propage par les micro-gouttelettes de salive qui contiennent du virus, qui sont dans l'air? C'est ça?
Alors tout à fait, ça se transmet par un virus qui s'appelle influenza, par les gouttelettes, toutes les particules qui viennent des yeux, du nez, de la bouche, qui se transmettent principalement par contact. Le virus influenza a la particularité d'être quand même très résistant au froid. Donc c'est vrai qu'il y a plus de chances de le trouver dans un air froid parce qu'il va vivre plus longtemps en fait dans l'air.
Le virus de la grippe se transmet de la même manière qu'un rhume sur l'aspect contact par exemple.
Alors justement,
si je serre la main d'un collègue grippé, est-ce que je risque d'attraper la grippe?
Sans doute aussi. Donc il peut se communiquer comme se communique le rhinovirus. En revanche, effectivement, le rhinovirus, comme on le disait tout à l'heure, ne se communique que très rarement par l'air. Et l'autre point qui est difficile pour votre médecin, alors il peut ne pas avoir trop de doutes, mais c'est ce que disait Julie tout à l'heure, c'est surtout un diagnostic probable. C'est-à-dire que pour être tout à fait certain, il faudrait faire une sérologie, donc il faudrait faire un examen, etc. Et c'est généralement pas utile de le faire. Mais pour le médecin, ça peut... Un rhume peut donner des symptômes qui ressemblent à une grippe. Donc du coup, le médecin va dire quelque chose qui est un petit peu flou. Il vous dira par exemple, vous avez un syndrome grippal. Ça veut dire qu'il ne sait pas exactement ce que vous avez, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il ne sait pas que vous n'êtes pas entre de bonnes mains. C'est juste que ça coûterait très cher et ça n'a aucun intérêt de vous faire un test pour voir, pour être sûr que c'est bien la grippe que vous avez.
Oui, on parle souvent d'état grippal. Hein.
Oui, tout à fait. L'état grippal, c'est ce qu'on appelle avec les courbatures, justement le rhume, la sensation de fatigue, souvent un peu mal à la gorge.
Mais comment on fait la différence? C'est compliqué pour le médecin de faire la différence entre un état grippal et la vraie grippe?
Un état grippal, syndrome grippal, disons que c'est quelque chose de plus large dans lequel on va mettre plusieurs choses. La grippe saisonnière, celle-ci, elle est vraiment très bien décrite. On connaît son virus. C'est celle contre laquelle on se vaccine tous les ans et c'est celle qui est si dangereuse pour les personnes vulnérables.
Doit-on forcément consulter en cas de grippe? Et quelles sont les populations qui doivent absolument consulter?
Alors, il n'y a pas besoin de consulter par rapport au traitement des symptômes, parce que finalement, à part se reposer, prendre un peu de paracétamol pour atténuer les symptômes, il n'y a pas grand-chose à faire.
Notamment.
Et s'hydrater, voilà. Par contre, après, il y a un problème de santé publique qui se pose, c'est-à-dire que ces gens souvent travaillent en communauté, collectivité, et du coup, en fait, sont contagieux. Donc, pour des raisons de santé publique, ils ont besoin de consulter pour se faire arrêter, tout simplement.
Pourquoi la grippe peut-elle tuer? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la grippe tue chaque année entre 250 et 500 000 personnes à travers le monde. Maëlle Lemoine.
Alors, il faudrait mieux demander plutôt à Julie, mais globalement, si j'ai bien compris, c'est un virus qui peut être dangereux à cause des complications qui peuvent suivre. C'est-à-dire, en fait, il s'installe assez bas dans l'arbre bronchique et à cause de ça, il peut provoquer ou entraîner notamment des surinfections bactériennes, je crois.
C'est tout à fait exact. La grippe peut se surinfecter d'infections bactériennes. C'est pour ça que les gens qui sont avec des facteurs de risque, qui ont des pathologies chroniques au niveau respiratoire, cardiaque, sont beaucoup plus risque. Et la grippe provoque notamment des syndromes de détresse respiratoire avec des pneumonies qui peuvent être très hypoxémiantes. Ça veut dire que l'oxygène baisse très fortement dans le sang. Et c'est souvent les raisons qui mènent les gens en réanimation dans les grippes gravissimes.
Alors vous prescrivez des antibiotiques en cas de surinfection bactérienne?
Oui, ce qui est extrêmement rare dans
c'est le
cas
rare,
de la grippe saisonnière, qu'on soit bien clair.
Faut-il se faire vacciner? C'est une question que de plus en plus de personnes se posent. Et comprenez-vous ceux qui rejettent le vaccin contre la grippe jugé dangereux à cause de certains composants, alors que, je le rappelle, il n'y a pas d'adjuvant, notamment à base d'aluminium, dans le vaccin contre la grippe?
Alors, à propos des adjuvants ou des produits toxiques, non, ça, je ne comprends pas cette raison-là. Alors, le vaccin est recommandé pour les gens qui sont les plus vulnérables. Donc, c'est les âges extrêmes de la vie, les petits-enfants, les gens de plus de 65 ans et, a fortiori, les gens qui ont des pathologies chroniques, les gens qui sont diabétiques, par exemple, etc., les femmes enceintes. Donc, chez cette population-là, le vaccin est recommandé et d'ailleurs remboursé à 100% par la Sécurité sociale. La question se pose pour les gens qui ne sont pas dans ces populations-là. Alors, après, nous, on utilise la technique du cocooning, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens, bah, est-ce que vous avez des enfants dans votre entourage? Est-ce que vous avez des personnes âgées? Est-ce que vous avez des gens qui sont plus vulnérables? Est-ce que vous travaillez en collectivité? Est-ce que vous êtes un professionnel de santé? Dans ces cas-là, oui, ces gens-là ont intérêt à être vaccinés. Sinon, ça se discute à échelle individuelle.
Et on peut tout de même attraper la grippe, même en étant vacciné?
Oui, tout à fait. Le vaccin actuellement, cette année-là, on voit qu'il est à peu près à efficacité de 60% sur une population générale.
Maëlle Lemoine.
Bah, c'est la difficulté, c'est très intéressant d'ailleurs, hein, c'est un virus comme le rhinovirus, ce sont des virus qui mutent, hein, c'est-à-dire qui changent en fait très rapidement de nature. Et le vaccin qui est préparé, il est préparé sur une certaine souche, ou enfin plutôt un ensemble de souches du virus. C'est une sorte de pari que font les gens qui le préparent en se disant, on pense que si on a ce mélange-là, on a le plus de chances, on va maximiser les chances de couvrir le maximum de gens dans tant de temps, en fonction de ce qu'on sait de l'évolution du virus. Donc c'est un pari qu'on fait, et certaines années, on le perd.
En quelques secondes, vos recommandations pour éviter d'attraper la grippe ou un rhume, docteur Julie Gilles de la Londe.
La vaccination pour les gens qui sont dans les populations vulnérables,
pour la grippe.
Le lavage de mains, la prévention par les gouttelettes, donc éviter de se toucher le visage.
Et puis le lavage du nez par le sérum physiologique.
Exactement.
Emmaël Lemoine. Pas
même chose.
Allez, vous pouvez lire avec profit la petite philosophie du rhume de Maëlle Lemoine. Merci Julie, Gilles Delalonde d'être venue ce matin.
Merci à vous.
Si le cœur vous en dit, je vous attends ce soir à 19h à l'Auditorium du Louvre pour évoquer quelques idées reçues sur la préhistoire et la représentation de cette période dans la bande dessinée. Il y aura notamment le paléoanthropologue Pascal Pic du Collège de France. Demain, nous vous dirons comment exprimer ces sentiments amoureux. Parvenez-vous à les exprimer? Est-il compliqué pour vous de dire je t'aime, même en couple? Quels sont vos plus beaux mots d'amour, SMS ou lettres envoyées à l'objet de votre affection? Profitez de l'antenne pour dire votre amour. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et l'appli France Inter. Dans un instant, Nagui et la bande originale.